grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, ça va être encore une interview que j'ai réalisée pendant mon séjour au Sainte-Marie de la Mer. Il s'agit d'une interview de Yanouch. Yanouch est un personnage assez extraordinaire. Quand on le voit arriver, il est habillé tout en jean, avec un chapeau de cow-boy sur la tête, des Santiago aux pieds, une petite barbe blanche et des yeux bleus, très bleus, étonnamment bleus. Et Yanouch, vous allez voir, on ne sait jamais si ce qu'il dit est la vérité, parce que ça paraît tellement extraordinaire qu'un homme ait pu vivre tant de choses. Mais en même temps, moi je suis sûr, oui, je suis persuadé que ce qu'il dit est vrai. En attendant d'entendre Yanouch, je vais vous dire que les musiques de cette émission seront, comme d'habitude, pour le générique de début et de fin de Jean-Philippe Leclerc, et tout le reste des musiques que vous allez entendre, c'est des musiques de Jean-Marc Zelver. Voilà, maintenant, parole à Yanouch. je suis toujours au Sainte-Marie de la Mer, c'est aujourd'hui d'ailleurs le pèlerinage, et en face de moi j'ai Yanoush. Alors Yanoush, le mieux c'est que tu te présentes toi-même. Hein.
Oui, alors je viens au Sainte depuis 40 ans. Je viens pour le pèlerinage et je fais spectacle, je fais pendant quelques années et ensuite je fais la découverte du schiste et je fais la gravure. Je grave sur l'argile, c'est de l'argile.
Oui.
Et donc je fais ces gravures et j'expose, voilà.
Et j'en ai vu des gravures, c'est vrai qu'à la radio c'est pas facile de les montrer, elles sont vraiment très belles, mais c'est un travail de fou, tu travailles ça comment ?
Avec une lame de couteau, avec le laguiol et des petits tournevis, des petits outils que j'ai fabriqués moi-même, voilà. Et ça me permet de faire des figures, surtout les roulottes anciennes, hein, les roulottes que j'ai connues quand j'étais enfant. Et les charrettes et tout, les chevaux, les familles et tout. Et les saintes, l'église, ça c'est fabuleux, c'est une marque extraordinaire.
Si je comprends bien, t'es né sur le voyage.
Ah ben nous sommes du voyage, depuis toute la vie, depuis toujours. Depuis l'époque malheureusement, j'ai pratiquement toute la famille qui est restée en Pologne. Et eux sont malheureusement été pris par la dernière guerre. Et puis il reste pratiquement plus personne. Quelques-uns sont partis aux États-Unis et ma foi, on n'a plus de contact, malheureusement. Voilà.
Et alors maintenant, tu me disais tout à l'heure, hors micro, que tu étais devenu un gadjo.
Je suis sédentaire.
et alors, justement, quelle grosse différence il y a pour toi entre les voyageurs et les sédentaires, en dehors du fait du déplacement,
la différence,
évidemment.
C'est une question de liberté, c'est une question de vivre totalement la liberté. La nature appartient au monde. La nature, nous, on ne l'a pas coupée. On ne l'a pas coupée, on n'a pas mis des murs. On continue, on voyage constamment. Et c'est de voir, de rencontrer, c'est de rencontrer des êtres, des gens qui ont quelque chose d'extraordinaire, des gens qui voyagent, ils sont gigantes dans leur âme, ils ont quelque chose de très fort, et ça nous permet de faire quelque chose, des rencontres, ça, c'est le principal de la vie.
Ah ça, je dois dire que d'ailleurs, pour les rencontres, t'es champion quand même, parce que nous, on se connaissait ni Ève ni d'Adam, et on s'est mis à parler comme ça au détour de la rencontre.
À moi, à partir du moment que, déjà que tu as une tête d'Indien, et tu ressembles, tu es du voyage, ça c'est très très fort. C'est, pour moi, il faut que j'aie le contact, il faut que ce soit réciproque, bien sûr. Hein. Et ça, c'est ça la rencontre, justement. C'est ce qui nous permet de parler. Il y a tellement de choses et j'apprends tous les jours. Chaque jour, j'apprends ce qui appartient dans l'être, dans toute la vie. Comme je dis, le monde, la terre est notre mère et la mer est le ventre de la terre. Nous venons des galaxies, nous sommes le fait de l'extraordinaire phénomène de l'alchimie qui a produit par la mer, l'être humain. Voilà.
Thank you. hors micro, tu m'as raconté plein de choses que j'aimerais bien que tu en parles un peu. Entre autres, que tu avais été fakir.
Ah oui, j'étais pendant quelques années. Quand je suis arrivé au Sainte-Marie-de-la-Mer, les premières années, il y a 40 ans, et j'étais fakir. Je faisais le spectacle de fakir. J'avais avec moi deux sympathiques, des cracheurs de feu. Et puis on dressait un peu les oies, les chiens, les chouquelles. C'était extraordinaire. Et ça s'est passé comme ça. Bon, par la suite, il y a eu beaucoup de... Ça a brassé un peu du fait qu'il y a eu beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup trop d'alcool, de l'alcool, du shit. Et ça a cassé. Ça fait qu'on m'a interdit de faire. Donc j'ai découvert l'argile de Sahara. J'ai le schiste. Ce qui m'a permis de commencer à graver. Et ça a tellement bien marché que je continue jusqu'à l'heure actuelle.
Tu m'as dit aussi que tu avais été cascadeur.
Ah oui. Pendant 4 ans, j'ai fait cascade automobile. Mais très dur, très très dur. J'ai eu des suites. Bon, ben, c'est normal, hein, c'est un métier qui est complètement dingue. Quand on voit, j'ai eu des problèmes. On voit des films, mais c'est colossal, des cascades automobiles et tout. Ils sont pas faits par les acteurs, ils sont faits par des cascadeurs qui font doublage. Mais c'est fabuleux. Et ça, on a produit de ce. Enfin, je n'ai pas été très loin. J'ai été à des limites. Je faisais des tonneaux, je faisais des. Bon, il y avait percussions d'automobiles, il y avait des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'était ma vie. C'est ma vie. Je suis à plein pot. C'est une. En sortie, il y a une certaine petite violence. C'est une révolte. On se révolte. Et on veut montrer qu'on a quelque chose de très fort en soi. Et c'est ce qui m'a permis de développer cet esprit.
Voilà. Il y a aussi une histoire que j'aimerais bien dont on nous parle. Tu m'en as parlé, moi, 2 fois. C'est les Indiens.
Oh, les Indiens. Ah oui, les Indiens, ça, je ne peux pas dire à quel siècle. Il s'est produit qu'en Sibérie, les tribus de Tsigan, qui existent encore à l'heure actuelle, qui vivent dans des prairies fabuleuses de la Sibérie, ils arrivent à des phénomènes. Gengis Khan était le grand chef des Tsigan. Gengis Khan est très connu. On a des histoires fabuleuses. J'avais vu un film qui était Michel Strogoff. Il a été, quand ils l'ont aveuglé, au sabre, au poignard, quand ils l'ont aveuglé, ce sont des Tsiganes qui l'ont soigné. Parce qu'on a des pouvoirs. On parle de pouvoir. C'est quelque chose que nous avons en nous. C'est un pouvoir que nous avons en nous. Tout le monde l'a, mais on ne sait pas le développer. On a tellement de problèmes de vie, de situation et tout, qu'on ne cherche pas à développer nos pouvoir. Et c'est quand on vit dans la nature, on arrive à avoir ce contact qui est fabuleux. On le ressent et c'est souvent l'héritage. Moi, le fakir, c'est un héritage. Et tout ce que j'ai, tout ce que je fais, moi, je sais pas, je savais pas lire à cette époque. J'ai appris à lire à 45 ans parce que j'ai voulu découvrir dans les bibliothèques tout ce qui, les secrets qui étaient dans ces livres qui avaient peut-être plusieurs siècles. Et c'est cette découverte fabuleuse. Je voyais les images et je voulais savoir qu'est-ce que disaient ces images en vrai, au fond. Pas écrit par ces gens-là, des siècles passés, ils ont laissé des secrets qui nous permettent, nous, d'avancer dans la vie. Et ce qui nous démontre que la découverte du monde, elle est faite de ce sens-là. On apprend et ça m'a permis de découvrir, de savoir ce qu'il disait, et puis ce qu'il décrivait dans l'alchimie. Ça me plaît beaucoup. L'alchimie, les découvertes, les recherches dans la science. Et ça, c'est fabuleux. Voilà.
Mais alors, tu dis que tu as appris à lire à 40 ans ?
45 ans.
45 ?
Disons, je suis lire à 45 ans.
Et alors, t'as fait comment pour apprendre? Parce qu'il était trop tard pour l'école.
Mais parce que j'étais entouré de personnes qui m'ont permis. J'ai connu des gadji, hein, qui m'ont aidé, qui a développé ça a été très vite, hein. Ça a été très vite. J'avais envie. j'avais envie de savoir. Bon, je n'ai pas appris comment ils apprennent à l'école, avec comment alphabétique, alphabet.
Ouais.
Je n'ai pas appris comme ça, j'ai appris les mots, les mots. Et au fur et à mesure, j'arrivais à développer le savoir. Mais j'écris toujours pareil, hein. J'écris comme je parle. C'est assez drôle.
Toujours vécu en France ou...
Oui. Ah oui. Enfin, j'ai toujours vécu en France. On a eu pratiquement tous les départements de France, excepté le Nord. Le Nord est trop froid, je crains, et je me suis jamais intéressé, sauf je limite au Sable d'Olonne. D'ailleurs, Salomé, ma fille, elle est née au Sable. C'est une Sablaise. Elle est née au Sable. Elle devait naître au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais on a pris le camion. C'était en fin octobre. Et on a pris le camion. On est parti au Sable, où on restait pendant la saison d'hiver. Et puis, Salomé est née là-bas, quelques jours après notre arrivée.
Et alors, voilà. Par curiosité, peut-être que tu ne vas pas te souvenir de tout, ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait comme métier, en fait, dans ta vie?
Oui, je crois bien beaucoup.
Allez, dites-en quelques-uns. Alors, fakir, oui. Cascadeur, là maintenant t'es graveur surfiste.
J'étais même plongeur dans des... plongeurs, est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Dans les restaurants. Laver
la vaisselle. Mais j'ai pas honte, je l'ai fait parce que la famille avait besoin. On l'a fait comme ça. J'étais plongeur, j'étais menuisier-ponceur. J'ai été maçon-coffreur, j'ai fait 11 saisons. Je quittais les Sainte-Marie-de-la-Mer au mois d'octobre et je partais à Bourg-Saint-Maurice et j'étais sur les pistes de ski. Mais j'ai mis une année, j'avais rencontré une gadji qui était de cette région, avec qui j'ai vécu magnifique, et on a une fille, Sarah. Et ma fille maintenant, elle a plus de 30 ans, hein. Et... on a vécu de faire du ski. Quand je me suis monté sur les planches, la première semaine, j'ai dit, je m'en vais demain. Je disais, attends, tous les jours, mais la nature était tellement belle. Et puis j'ai appris comme ça, et maintenant je tiens bien sur les planches. Voilà. J'ai fait 11 saisons de ski. Ma foi, ça m'a permis de voir et puis de connaître du monde. Et je faisais du fakir là-bas. Je faisais des spectacles de fakir, c'était fabuleux d'ailleurs, je t'ai montré quelques photos, c'était à Bourg-Saint-Maurice, la planche, le verre et tout. Là c'est dommage, je n'ai pas de photos des broches, je me coule la bouche, je me plante des broches dans le corps, bon, c'est le fakir, c'est du vrai fakir.
Mais alors, du vrai fakir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc?
Ah, il n'y a pas de truc. Les broches, elles font facilement 40 cm de long. Et bien affûté, puisque j'étais rémouleur au Sainte-Marie-de-la-Mer aussi. Et je passais les broches, carrément, je traversais les abdos, je traversais les cuisses, je traversais les bras. Et ça, c'était le plus difficile du spectacle. Autrement, le verre, c'était pas... Bon, c'était un coup à prendre. Mais c'est dans l'esprit, la force. Toute personne a cette force quand on y croit. On a cette capacité d'aller contre le mal. Des docteurs, moi, j'ai jamais connu. Les dinolos, pour moi, c'était du bidon. C'est des gens, chacun a son métier. Mais pour moi, c'était rien. Par ton esprit même, en psychologie, comme me disent les gadgets, en psychologie, tu combats le mal. Tu arrives à aller contre. Tu sais te guérir toi-même. Tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Voilà.
Depuis que tu es en maison, ça doit te faire drôle quand même. Ça fait combien de temps d'ailleurs?
Ça fait quelques années déjà. Ça fait combien? Salomé, elle a 14 ans et demi. Eh bien, ça fait 10 ans. 10 ans que je suis dans les maisons. Des gadgets.
Non, mais justement...
J'en souffre. Oui, tout à fait. Je me lève le matin, je vois ce plafond sur moi. C'est plus le ciel, c'est le plafond de béton. Je me retourne d'un côté ou de l'autre, c'est du béton. C'est vrai, il y a tout. Il y a la télé, il y a le four, il y a tout ce que tu veux, mais c'est pas ma vie. C'est pas ma vie.
C'est plus confortable, pourtant.
Non. Parce que dans le voyage, tu es obligé de chercher quelque chose. Tu es obligé, on cherche le bois, parce qu'on vit dedans, dans la caravane ou dans le camping, on vit dedans, mais la nuit. Autrement, toute la journée, on reste dehors, on mange dehors, on cherche le bois. Alors, j'ai une spécialité. D'ailleurs, j'ai une super photo d'un cuistot qui est arlésien. Et ce cuistot, je ne me souviens pas de son nom. Il m'a montré la photo que nous sommes présents tous les deux. Je lui ai donné la recette du ragondin. Le ragondin, c'est délicieux. J'aime pas tuer les animaux. Je ne les tue pas, j'ai une façon de les avoir différemment. On fait le ragondin, on fait le niglo. Le niglo, c'est notre plat de connaissance dans le monde entier. Mais le ragondin, c'est quelque chose de fabuleux. J'ai même plusieurs restos qui m'ont demandé la recette. Thank you.
à vivre comme ça dans la nature et en grande partie sur la nature. Ça demande un certain nombre de connaissances que je suppose qui se transmettent de père en fils, on va
tout
dire. Mais tout ça, chez vous, c'est par tradition orale. Je veux dire, justement, tu vivais, j'allais dire, en tribu, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, enfin, en famille.
En famille, voilà. Oui, tribu,
en
oui,
famille.
C'est...
Oui, non, mais enfin, tu vois ce que
famille,
je veux dire.
C'est en famille, ouais.
Je suppose, à plusieurs caravanes, roulottes ou...
Mais quand mes parents sont arrivés en France, nous n'avions pas de caravane. On était en cabanon, en charrette, et on a eu des problèmes. Bon, qu'est-ce que tu veux ? On arrive comme ça, d'un pays étranger. La guerre a fait que ça a marqué beaucoup de personnes. Les gadgets, ils ont été marqués par tout ce qui se passait. On était des étrangers. Et ils ne savaient pas ce qu'on savait faire. Ils croyaient qu'on ne vivait pas de mendicité. Nous avons toujours quelque chose à faire. Moi, avec papa, c'était fabuleux. Mamouchka, elle était cartomancienne. Elle l'est toujours, mais bon, elle a 88 ans maintenant. Elle a arrêté, mais c'était un personnage très connu, Mamouchka. Et on vivait rémouleur. On affûtait les couteaux, les ciseaux. C'était quelque chose de fabuleux. Mais on ramassait aussi les peaux de lapin. On ramassait le pain dur, parce que le pain dur, il n'est jamais perdu. Le pain, c'est sacré pour nous. Le pain, c'est quelque chose que tu ne peux pas jeter. Bon, s'il peut servir pour donner à manger aux canards, aux poulets, c'est bien. Mais nous, le pain, on le récupérait, on faisait le pain perdu. Le pain perdu, je suis sûr qu'il a un nom chez nous. Un nom parfait. Le pain perdu n'existe pas, c'est du pain. Du pain, le bonheur des enfants. Mamouchka, elle avait une façon, c'était une magicienne dans la cuisine. Elle arrivait à dorer un pain dur, manger le gâteau. Et pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de personnes sont venues par curiosité et se sont régalées. C'est comme pour le ragondin, c'est la même chose. J'étais le seul au Sainte qui ait fait du ragondin. Attention, c'est long. C'est 3 jours de préparation, hein, de préparation et cuisson. 3 jours, il faut compter 2 jours et demi. 2 jours et demi ou 3 jours. Et ça fait que j'ai fait quelque chose de fabuleux. J'ai régalé beaucoup de personnes. Et voilà.
Tu parles combien de langues, toi ?
Oh, moi, j'ai perdu la langue de notre...
Le romanesque ?
J'ai perdu le romanesque. J'ai perdu le polac. Parce que c'est différent encore. Il est différent. C'est une... Comme vous dites, une... dans chaque tribu, comme on dit, dans chaque tribu, on a quand même un langage qui est assez
différent. Un dialecte un peu différent.
Il y a un film qui m'a marqué énormément, c'est La Chodrome. Ouais. La Chodrome, ils ont montré en Pologne, les Tziganes, j'ai reconnu des familles à nous, qui sont de familles authentiques. Ils ne sont pas des acteurs qui ont été choisis comme ça. Ce sont des familles, des tribus totalement... authentique, et ça, c'est fabuleux. Et cette recherche dans le fond de la vie, Tzigane, qui est très difficile pour les autres, parce qu'ils ont une vie facile, ils remarquent des choses qui sont extraordinaires. C'est comme le fakir, c'est comme tout ce que je fais, ça épate, ça surprend les gens. J'ai été suivi quand je faisais le spectacle de Fakir, j'étais suivi par un dinolo, un docteur. Et il me disait, mais comment est-ce possible ? Ça fait 3 jours que tu avais fait un spectacle et tu es guéri. Mais oui, mais dans ton esprit, tu provoques. Nous avons un contrôle dans le corps qui te guérit totalement. Mais quand tu y crois, quand tu lui donnes ce pouvoir... Quand tu arrives à provoquer cette vie, ça se produit.
Oui, mais ça, il y a quelqu'un qui te l'a appris ou
non,
tu l'as trouvé tout seul ?
Je l'ai hérité. C'est ça l'héritage. On parle des héritages, les gratchets, ils parlent des héritages. Bah, c'est leur maison, c'est leur fortune et compagnie. Mais la vraie fortune, c'est la vie. La vraie fortune, c'est la santé, la vie. Et c'est ce qui t'est transmis par les anciens de chez nous. Et ça, c'est extraordinaire.
Ah, ça, j'aimerais que tu me parles de ça. Parce que nous, moi, quand j'étais vraiment minot, gamin, Les anciens comptaient encore beaucoup, et puis c'est quelque chose qui s'est perdu très vite en 60 ans. Là, ça a pratiquement disparu. On met nos anciens dans des trucs de vieux. Enfin, moi j'appelle ça des mouroirs. Et,
tout à fait, nous aussi. Nous aussi, on parle comme ça. Ce sont des mouroirs. Ce que je vois, puisque j'ai une télévision maintenant, je vois des documents, c'est terrible. Ces vieux qui ont donné la vie, qui ont donné l'autre vie, puisqu'ils sont de trois générations en arrière. Ils sont extraordinaires et ils sont enfermés dans des mouroirs. Ils sont soignés comme des animaux, comme dans des cages. Ce n'est pas une vie. Nous, les chez nous, on ne dit pas les vieux. On dit les anciens, et ces anciens, on a un respect plus fort. Le mot n'existe pas. C'est plus que le respect. Ils nous ont tout donné. Eux ont la première place dans la vie. Eux et les enfants naissants. Parce que les enfants qui naissent n'ont pas demandé à venir. Et donc, il faut leur donner tout.
Tu sais, hier, j'ai assisté à un baptême. Oui. Et ça m'a profondément marqué parce que, il y avait le papa qui a joué de l'accordéon dans l'église, etc. Et nous autres, les gadgets, on n'oserait jamais faire un truc pareil.
Bien sûr, mais justement, si tu te présentes dans ce phénomène qui est extraordinaire, quand tu te présentes devant Dieu, puisqu'il est Dieu dans sa maison, et il te donne la vie, ils disent qu'il te donne la vie, qu'il te donne l'avenir, qu'il s'occupe de ton passé, qu'il s'occupe de après ta vie encore. Et justement, il te donne cette liberté, et c'est dans la musique que tu ressens ce que tu as besoin de développer. Cette musique, les doigts, parce que nous autres musiciens, on a ça. Cette musique, on l'a appris par nous-mêmes. C'est les doigts, c'est le cœur. Tout vient dans le cœur et tu développes quelque chose d'extraordinaire. Ce que tu n'arrives pas à parler, tu le donnes dans la musique.
Cinq petites minutes. Et je voudrais revenir sur ce que tu fais maintenant, tes sculptures sur schiste. D'abord, comment t'es venue l'idée ?
Ce n'est pas de la sculpture, c'est de la gravure.
Gravure, excuse-moi. Ouais.
Je peux sculpter aussi, hein, mais je n'ai pas les moyens de...
Parce qu'il faut c'est quand même de la sculpture, c'est ce que les spécialistes appellent de la ronde bosse.
Moi, c'est un bas-relief.
Oui, c'est ça,
oui,
de
c'est
la ronde bosse.
Oui. Ah, ben, ça, c'est, ma foi, c'est venu comme ça. Je savais déjà dessiner, et je m'amusais. Quand j'étais gosse, j'arrivais à tailler du bois, et tout le monde me dit, mais qui c'est qui a fait ça? Alors je disais, ben voilà, je l'ai fait, avec mon petit chourin, avec mon couteau, là. J'ai taillardé, et ça a épaté beaucoup de personnes. Non, Romy, arrête. Ça a épaté beaucoup de personnes, et j'ai continué. Donc j'ai développé mon savoir, et j'ai été surpris par moi-même. Hein. Par moments, je regardais, je me dis, mais comment j'ai réussi? C'est ça, c'est cet héritage. Ça, c'est le vrai héritage. C'est quand tu as quelque chose en toi que tu arrives à développer totalement. Mais il faut le rechercher, il faut le travailler, et tout est possible. Mamouchka, elle est soignée avec l'herbe, avec les plantes, on disait l'herbe, mais c'est avec les plantes. Elle se levait le matin très tôt, je partais avec elle, et elle arrosait. Au lever du soleil, elle cueillait les plantes, elle leur parlait, mais c'était fabuleux. Par moments, je dis, maman, Mamouchka, pourquoi tu lui dis ça? Elle me dit, je l'accueille, elle va servir parce que quelqu'un a mal, quelqu'un a besoin. Quelqu'un a ceci et cela. Elle me développait totalement le sens des plantes. Et la beauté, la nature donne tout ça.
Yanouch, le temps passe, on va arrêter là. Mais je vais te poser une dernière question qui est un peu curieuse. Mais est-ce que y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ?
Une question ? Si je vais te dire, voilà, j'ai toujours besoin de la nature, j'ai toujours besoin de... Ma gosse, elle me suit, mais elle est magnifique, la nature, les arbres qui vont dans, la, dans le ciel, ces arbres qui te donnent la naissance de nature extraordinaire, les oiseaux, on est extraordinaire avec les oiseaux, on a un contact qui est fabuleux, et puis on a, c'est un envie de retour au voyage, je retournerai, il n'y a pas de problème, c'est certain.
Eh bien, un grand merci, Yanoush. On va quitter nos auditeurs pour aujourd'hui. Et en tout cas, un grand merci.
J'ai fait ce que j'ai pu parce que je ne suis pas très, très contacté. Il est bon, mais je n'arrive pas à beaucoup parler.
Eh bien, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Yanoush, j'espère que je le reverrai, que je pourrai boire quelques verres en sa compagnie, en écoutant tout ce qu'il a raconté. En attendant, eh bien, je vais dire un grand merci à Nico qui va monter cette émission. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire deux petits textes sur le générique de fin. Ces textes sont de Jean-Marie Kerwisch. Le premier texte a pour titre « La pluie ». Je connais l'âme. Elle est blanche comme le rideau de dentelle d'une caravane que le souffle du ciel fait se mouvoir dans un silence si fin. Il y a une douce brise dans ce terrain de camping du Luxembourg. Le merveilleux langage allemand me fait oublier ma tristesse d'avoir trahi mon âme. J'ai le regret d'avoir été publié, d'avoir rendu mes pensées orphelines. Elles étaient plus heureuses dans mon vieux camion, cheveux au vent et le ciel étoilé dans leurs yeux. Hélas, je les ai négociés au nom de la littérature. Ah, si je pouvais poser ma tête sur un nuage. Je suis le prince de mes tendres actes, la fragile sculpture de Dieu. Mon âme prépare la table dans ma caravane. Je fais cuire des œufs sur mon cœur en flamme. Espérons qu'il va pleuvoir. Que le bruit de la pluie durera toute la nuit et que je m'éveillerai comme quand j'étais jeune, avec une force magnifique. Le deuxième texte a pour titre « Le penseur ». Beaucoup cherchent le gitan solitaire, mais les fleurs sauvages, les cailloux et la pluie refusent de dire où il se trouve. En fait, c'est lui qui, par timidité, refuse de montrer son visage. Mais sur les rives de la Seine, vers Chatou et Gennevilliers, il y a une présence, une brise bleuâtre, comme si l'esprit y allait en pèlerinage. La petite caravane est là. Elle fait à peine 3 mètres. C'est suffisant pour contenir toute la sagesse de l'esprit. Certains prétendent qu'elle appartient à un clochard. Mais moi, je m'y aventure le soir et à travers la fenêtre, je vois un homme corpulent. Je n'ai pas peur, car c'est là que réside la paix. Une simple bougie illumine le lieu. Même l'eau de la Seine sort de son lit pour admirer l'illustre inconnu de ses yeux mouillés. Il y a aussi des ronces, qui, comme des sentinelles, veillent sur lui. Soudain, je sens une odeur de poivron frit. La porte vient de s'ouvrir. L'homme tient une plume à la main et il écrit, tout en surveillant la cuisson. Il n'y a qu'un vrai penseur pour agir ainsi. Ben voilà, ça va être les vacances, alors cette série d'émissions va s'arrêter. Oh, quand je l'ai commencé, je ne savais pas combien d'émissions il y aurait. Et en fait, je ne le sais toujours pas. Parce que si ça va s'arrêter, parce que c'est les vacances, eh bien, ma grand-mère les appelait les bohémiens, recommencera à la rentrée. J'ai un certain nombre de contacts pour cet été, pour aller réaliser des interviews, rencontrer encore plein de gens qui vous racontera ce que sont vraiment les bohémiens. Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt à la rentrée.